Pavillon Nomade, l'émission spéciale.
Bonjour et bienvenue sur Pavillon Nomade pour une émission spéciale enregistrée et diffusée en direct de la salle de musique. Émission spéciale à l'occasion de la fête de Saint-Dipna, 16e édition. Depuis 2011, en effet, nous profitons de cette journée pour proposer une pause, une réflexion, une respiration qui interroge les liens entre la psychiatrie au sens large et la spiritualité. Après le souffle, l'écoute, nous avons choisi cette année de prendre du temps pour réfléchir à la voix. Pas la parole si importante dans le soin, mais la voix qui la porte. On termine ainsi une trilogie montée à l'envers, le souffle, l'écoute et la voix. Nous recevons deux invités pour deux conférences, performances autour de la voix. Céline Henny, bonjour.
Bonjour.
Et Vincent Barras, bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue à vous deux. Alors, Céline, vous n'êtes pas inconnue à Malévaux, vous y avez résidé en 2021. Pour votre sortie de résidence, il y avait des patients musiciens comme Nicolas Crété à l'orgue, de la vidéo et des pizzas, et vous nous avez fait chanter. Ça vous fait quoi de vous retrouver ici, dans la salle de musique ?
Ben, c'est hyper émouvant parce qu'il s'est passé énormément de choses en deux mois. Beaucoup de rencontres, beaucoup d'émotions, beaucoup de découvertes. Ouais, principalement vraiment des rencontres très fortes. Ça a vibré fort, cette salle, pendant deux mois. Donc c'est très émouvant d'être ici. Je suis toujours très émue quand je reviens à Malévaux.
On le sent, on le voit. Merci. Vous êtes harpiste, chanteuse, performeuse, mais domiciliée à La Chaux-de-Fonds, ville qui vous a adopté et que nous avons découvert en votre compagnie lors d'une sortie de classe du quartier culturel. Vous m'avez dit par mail que vous êtes montagnonne. Et j'ai pensé que c'était un mot valise composé de montagne et mignonne, ou de montagne et bourguignonne, ou de montagne et champignonne. Pourquoi montagnonne ?
Bah, montagnonne, je pense que Sauferreur, ça signifie habitant de la région du Jura, Sauferreur. Et puis, pour moi, c'était d'utiliser ce mot-là, c'était par opposition à la genevoise que j'étais dans une vie antérieure. Genevoise, donc calviniste, vivant en milieu urbain. Puis, quand je suis venue habiter à La Chaux-de-Fonds, montagnonne, avec tout ce que ça peut impliquer, aussi La Chaux-de-Fonds, comme ville qui m'a fortement éveillée aux luttes passées, aux luttes présentes, aussi par tous les gens qui font vivre cette ville. Donc c'était ouais, une forme de revendication par opposition à la Genève calviniste.
Quand vous m'avez dit, je m'excuse, mais quand elle m'a dit le luth, je pensais qu'elle avait découvert l'instrument, le luth. Je m'excuse, mais c'est pour ça que ça m'a fait sourire, parce que vous avez commencé la harpe. Quel drôle d'instrument, quelle idée. Qu'est-ce qui vous avait amené à la harpe ?
J'ai fait de la harpe parce que mon frère faisait de la guitare et je voulais plus de cordes que lui. Donc ça marche bien. Et non, je faisais. Alors c'est vrai que l'harpe, c'est pas tout à fait un instrument anard et c'est pas un chant de lutte. Effectivement, ça se joue plutôt dans les salons et dans la haute bourgeoisie, voire l'aristocratie historiquement. Mais pour ma part, je l'avais entendu en Irlande dans un pub. Ça m'avait aussi fortement porté. Et puis voilà. Puis ensuite, j'ai essayé d'en faire autre chose de cette harpe.
Ouais, vous avez fait harpe, vous avez fait de l'enseignement, vous avez fait du chant. Vous êtes passionné maintenant par l'expérimentation vocale, vous pratiquez la musique improvisée, vous associez des explorations sonores au théâtre, aux arts graphiques. Mais j'ai lu quelque part que vous êtes une musicienne insubordonnée. Et hier, vous m'avez écrit par mail, « Ah, mais moi, j'aurais de la peine d'aller à la chapelle, je suis anarchiste. » Alors, c'est quoi une musicienne anarchiste ou insubordonnée ?
Ouais. Mais anarchiste parce que l'anarcha-féminisme, très précisément, pour préciser, justement, c'est une éthique de vie qui me porte très fort au quotidien, parce que justement, c'est une tentative d'émancipation des imaginaires, d'émancipation des corps. Et puis l'anarchisme aussi en musique, c'est vraiment dans l'histoire de l'anarchisme aussi, c'était les pratiques artistiques sont très fortes pour porter la sociabilisation et les mobilisations aussi à travers les pratiques artistiques. Et donc l'anarchisme en musique, c'est aussi voir comment on peut insuffler la singularité au sein du collectif et comment insuffler des pistes de décollage, essayer de trouver ensemble des dispositifs pour penser ensemble, justement, pour créer ensemble, pour être créative ensemble.
Je suis allé à Saint-Imier à la fête du 150e anniversaire de la fondation du mouvement anarchiste, puis il y avait des chœurs anarchistes, puis je voyais des chœurs sans directeur. Et puis comment ça fonctionne, alors, ces chœurs ? Vous faites partie d'un chœur anarchiste, non ?
À la Chaux-de-Fonds, il y a une chorale qui s'appelle La Gueule Ouverte, qui est née de l'effervescence de la grève féministe 2019, justement, qui s'est créée à ce moment-là. Et puis, ben, nous, l'idée, c'est un samedi matin sur trois, avant l'apéro, c'est d'explorer des champs de lutte du monde entier, parce que ça, c'est absolument passionnant. On pourrait retracer l'histoire des luttes en chansons. Puis du coup, on essaye de chanter et de l'ouvrir. En fait, c'est surtout l'idée de porter des envies et des convictions fortes à travers le chant.
Merci. Alors, si j'ai bien compris, vous êtes née en Valais. Non, vous êtes né à Genève et vous êtes parti à la Chaux-de-Fonds. Vincent Barras, vous êtes né en Valais et vous êtes installé à Genève. Mais j'ai bien connu votre papa. Ouais. Il était directeur du Sana Valaisan en Montana et moi j'avais 2 ans et j'étais asthmatique. C'est bien juste vous...
Oui, le Sana Valaisan qui était devenu déjà de votre temps le Centre Valaisan de pneumologie. Il avait progressé de la tuberculose à l'ensemble des maladies pulmonaire, dans l'asthme, et donc on retrouve le souffle.
On retrouve le souffle, effectivement. Restons dans les souvenirs. Il y a 25 ans, nous avions créé, dans le cadre de l'association Psychiatrie et Société, des journées de réflexion que nous appelions « Printemps de l'âme ». Et il s'agissait de faire dialoguer, durant une journée, la médecine et des artistes. Ce dialogue, Vincent, vous l'avez toujours soutenu, vous l'avez incorporé, vous le portez en vous. Quand je vais sur le site du CHUV, je lis. Vincent Barras est historien et médecin spécialisé dans l'histoire de la médecine et de la psychiatrie. Quand je vais sur le site de la Biennale Son du Valais, je lis. Vincent Barras est poète et écrivain. Il pratique la poésie action, la poésie sonore, visuelle et numérique. Alors j'ai cherché plus sur Internet les qualificatifs et j'ai trouvé. Poète, médecin, philosophe, écrivain, éditeur, organisateur de concerts, performeur, historien, professeur d'université, vous portez tellement de casquettes qu'on a l'impression d'avoir invité la fanfare de Cher Mignon.
J'allais y venir. Mignon, on parlait des mignons, des mignonnes, et là, il y a Cher Mignon, parce que je revendique de venir comme qualificatif d'être Cher Mignon. Voilà. Les deux ensemble, l'un ou l'autre, l'un et l'autre.
Mais comment vous avez jonglé dans votre carrière, dans votre longue carrière, entre justement ces disciplines scientifiques et ces disciplines artistiques ?
Bon, c'est évidemment une question qu'on m'a de temps en temps posée, qu'on continue de me poser, la preuve. Moi, j'ai l'impression d'avoir vécu, et j'espère continuer à vivre encore un tout petit peu, non pas en jonglant, mais enfin en faisant ce que j'ai envie de faire. Et il faut dire que j'avais une hérédité chargée, puisque effectivement, un père médecin, directeur d'un sanatorium et pneumologue éminent, et une mère pédiatre et spécialiste aussi de santé publique, de vaccination et tout ça. Et donc, prédestiné, c'est difficile d'échapper à ce déterminisme. Donc, j'ai grandi à l'ombre d'un sanatorium, des bacilles de corps et de la question de la maladie et de la santé. Donc, c'est quelque chose qui vous marque. Je pense que n'importe qui ayant grandi comme moi dans cet environnement-là serait devenu médecin ou aurait tenté de devenir médecin. D'une part, et puis l'intérêt pour toutes sortes d'autres choses, notamment dans la formation, avec des bons professeurs de littérature, de français ou d'autres, qui m'ont donné l'envie de continuer à m'intéresser à ces questions-là, à la musique, à la poésie. Et donc j'ai choisi de ne pas vraiment choisir, c'est-à-dire de continuer d'essayer de faire ce que j'avais envie de faire en devant parfois effectivement un peu jongler avec les emplois du temps.
Puis avec la géographie, vous m'avez dit à midi, ouais, mais je suis poète et musicien à Genève et je suis professeur d'université à Lausanne.
Oui, alors il y a des géographies, effectivement. À Malévo, je ne sais pas très bien ce que je suis, on va voir, mais effectivement, à Lausanne, dans un contexte, ça fait partie, c'est une référence à la question institutionnelle, on est défini aussi par ceux qui vous définissent comme tel. Et lorsque vous êtes dans un cadre académique et universitaire, vous êtes un peu coincé dans un rôle et éventuellement dans d'autres parties de la société, des institutions et de la géographie, eh bien, vous êtes un peu coincé dans le rôle. On est aussi bien coincé dans le rôle de médecin que celui de poète, après tout. Hein. Il n'y a pas de hiérarchie entre l'un et l'autre.
Hein. Alors, vous êtes auteur de plusieurs ouvrages, comme un qui s'appelle « Poésie sonore ». Est-ce que vous pouvez nous expliquer ou nous en dire un peu plus sur ce terme « poésie sonore » ?
La poésie sonore, alors je crois que le terme parle de lui-même, c'est bien le but d'ailleurs de la poésie sonore, qui est un mouvement que des artistes se considérant d'avant-garde il y a quelques dizaines d'années ont inventé pour définir une forme de poésie qui ne serait pas celle qui serait uniquement qu'on a tous en tête, qui est celle des de la poésie écrite, imprimée, qui n'est qu'une des formes possibles historiques de la poésie. Avant l'invention de l'imprimé, la poésie existait aussi. On remonte aux premières traces de notre civilisation occidentale, du côté de la Grèce, par exemple, ou d'autres endroits, et la poésie était marquée par l'oralité. Et la poésie, celle qu'on imagine être la vraie bonne poésie, celle qui est éditée par Gallimard, par exemple, j'ai rien contre Gallimard, mais elle fige, au fond, l'idée de la poésie dans une forme écrite. Et cette poésie sonore qui est revenue sur scène, littéralement sur scène aussi, à partir des années 50, s'est donnée pour envie de casser un peu ce modèle trop restrictif de la poésie. Donc c'est une poésie qui éclate, et notamment dans ses dimensions sonores, quoi.
Alors, il y a certains qui, au contraire, ont développé au maximum la poésie visuelle, comme Éluard, je crois qu'il dessinait. Hein, les poèmes sont dessinés.
Apollinaire.
Apollinaire, oui. La poésie pour les yeux, puis il y a des poésies pour les oreilles. Donc, vous avez créé des installations, des concerts dans divers lieux en Suisse, en Europe, en Amérique du Nord et du Sud, en solo, ou avec des chorégraphes, des musiciens, des danseurs, des danseuses, des auteurs, des autrices, des plasticiens, des plasticiennes. Et aujourd'hui, vous êtes ici à la salle de musique du quartier culturel en compagnie de Céline Henny. Bienvenue à vous deux. Alors nous allons procéder ainsi. D'abord une conférence ou un exposé de Céline Henny d'une quinzaine de minutes. On pourra poser quelques questions. Et ensuite, il y aura une conférence ou une performance ou un poème de Vincent. À 14h, il ne savait pas encore exactement ce qu'il allait choisir, donc on aura une surprise. Ensuite, il y aura une intervention de l'un ou de l'autre, ou peut-être des deux, on pourra participer. Tout cela devrait nous conduire vers 15h30, où on clôt cette émission enregistrée et diffusée, et après on aura l'occasion de revenir, de faire des tests, de poser des questions, de s'amuser, ou même de nous fâcher, mais tout ça sera hors antenne. Céline, à vous le micro.
Voilà, alors je vais faire une petite présentation parce que parler de la voix, c'est un vaste sujet, on pourrait en parler pendant des jours. Voilà, j'ai essayé de synthétiser tout ça. Alors, on est plus de 8 milliards de personnes sur Terre, ça signifie plus de 8 milliards d'identités vocales. Ça, c'est quand même extraordinaire. Chaque voix est absolument unique, chaque personne a son empreinte vocale, exactement comme on a une empreinte digitale. Et la voix, elle est le reflet de notre monde, de notre histoire, de notre imaginaire. Et c'est aussi un très fort marqueur, la voix d'identité sociale. Il y a bien sûr, on le verra, la physiologie, l'ADN, mais c'est aussi la voix, le fruit de notre environnement social et culturel. Et quand on écoute une voix, on n'écoute pas que des fréquences. Il y a toute une panoplie d'associations qui sont musicales, émotives, physiologique, psychologique, et j'aime bien dire aussi qu'on est polyphonique, parce que chaque personne, dans chaque voix, il y a une multitude de paysages, d'histoires, de couleurs, de timbres. Et puis, je parlais tout à l'heure de la singularité de chaque voix est unique et que chaque voix charrie une quantité d'histoires. Et ça m'emmène vers une dimension politique, parce que qui est-ce qu'on écoute ? Qui a voix au chapitre ? Ce qui a été évoqué ce matin à la messe, qui a voix au chapitre ? À quelle voix est-ce qu'on donne la parole ? Et qui écoute-t-on ? Alors l'écoute, c'est éminemment politique. Il y a des rapports de force, des rapports de pouvoir. Et pour moi, c'est absolument essentiel, cette singularité de chaque voix, de se dire que toute voix a quelque chose à porter, a des histoires à porter, des mondes, des imaginaires, charrie quantité de choses qui doivent être portées, et quelle que soit la façon dont c'est porté. Et pour préparer tout ça, je me suis entourée de gens qui ont travaillé avec la voix. Il y a un monsieur qui s'appelait Yann Parentehen, qui travaillait à la radio, qui faisait des pièces radiophoniques au moment où il y avait encore les bandes. Et Yann Parentehen se définissait comme tailleur de son. Son père était tailleur de pierre, lui il a sculpté les sons. Et il disait ceci que j'aime beaucoup. Je préfère des voix qui ont des gueules. Elles sont plus porteuses, elles ont des couleurs. Quand on est en montage, on a l'impression d'avoir une matière dans les mains et pas juste un discours. Et il dit, mais la voix, c'est avant tout du son, avant d'être du sens, c'est une matière son. Et il parlait d'écouter avec tout son corps. L'écoute, c'est une forme de toucher, il y a des vibrations. Et puis il disait, mais les oreilles, ça suffit pour le sens. Mais il y a aussi tout plein de couleurs, comme je disais, de paysages et de matière sonore. Et la voix, ce qu'elle a de fascinant aussi, c'est qu'elle est impalpable. on ne sait pas aussi comment c'est produit, et en même temps, ça peut laisser une trace très forte dans les personnes qui reçoivent une voix. Et j'ai lu une petite phrase que j'aimais bien, qui disait « la voix peut être en quelque sorte la plume de la pensée ». Elle vient tracer, en fait, ce qu'on a envie de raconter. Et c'est vraiment, je trouve, les voix une façon de rencontrer l'altérité, de rencontrer les gens. Alors, juste très brièvement, je vais faire très bref, comment ça fonctionne en fait ? Parce que c'est très curieux, on ne voit pas en fait, contrairement aux autres instruments. Donc, l'appareil phonatoire, c'est un sport d'équipe, d'émettre de la voix. Il y a un phoniatre qui dit que quand on étudie la voix, c'est comme regarder une architecture d'une immense complexité, c'est assez fascinant. Alors, il y a 4 éléments principaux pour la voix. Il y a d'abord la soufflerie. C'est la puissance énergétique de la voix. Ça, ce sont les poumons, le diaphragme et le thorax. Ensuite, il faut un truc qui vibre. Il faut un élément vibrateur. Puis ça, c'est notre larynx ici, dans lequel se trouvent nos deux petites cordes vocales qui vont se mettre à vibrer. Puis là, je vous propose une première expérience. On sent bien ça, c'est tout simple. En fait, si j'alterne le son ce qu'on appelle non voisé et le son qui est voisé, là, ça, si vous mettez votre main sur le larynx, puis vous pouvez vous alterner le et le moustique, le ou dans le mot zigzag par exemple, ou javanaise, là, en fait, on vient faire vibrer les cordes vocales. Et après, alors ça c'est la vibration, on a le vibrateur, mais si je prends une corde de piano, par exemple, je sors du piano et que je la tiens entre mes deux doigts, il ne se passera pas grand-chose. Pourquoi ? Parce qu'il faut les caisses de résonance, il faut venir amplifier tout ça. Et ça, du coup, c'est tout, ça se passe tout ici, c'est nez, bouche, pharynx, en fait, ici, qui sont nos résonateurs et qui vont sculpter la matière, lui donner une résonance.
Si je vous parle comme ça, ben déjà, je viens changer le timbre. Ça, c'est assez évident, c'est une des façons de modifier le timbre.
Et ça, ce sont toutes nos caisses de résonance qui vont venir donner une couleur, un timbre particulier. Puis après, ben, comme je suis en train de le faire, il faut articuler ces sons. Puis ça, ce sont les dents, les lèvres, le voile du palais et la langue. Et ce qui est assez fascinant, c'est qu'en fait, aucun de ces éléments n'a pour fonction première la phonation. Parce que la soufflerie, c'est l'oxygénation du sang. Le larynx, il a le petit clapet là, qui s'appelle l'épiglotte, qui fait le carrefour entre voie aérienne et voie digestive. Et puis toute cette région-là, ça sert d'abord à la mastication et à la respiration. Par contre, s'il y a un de ces éléments qui est altéré, la voix, elle sera altérée. Et du coup, les paléontologues qui ont étudié l'évolution de l'être humain, ils ont remarqué que la voix, elle est venue à titre d'adaptation fonctionnelle secondaire. Ça, c'est aussi assez fascinant. Parce que contrairement à Louis, qui a un système propre, et puis la fonction première de Louis, c'est « Oups, il y a un ours, barrons-nous dans la grotte ». C'est l'hypervigilance, c'est en mode survie, pour pouvoir justement être en mode vigilant. Mais la voix, on a vu, c'est tous des éléments qui ont une autre fonction. Donc, c'est venu vraiment au fil de l'histoire de l'évolution de l'être humain, la voix et la voix articulée telle qu'on l'a aujourd'hui, qui va encore évoluer au fil du temps. Et la voix, elle a une autre chose que je trouve absolument fascinante. Il y a cette phrase qui dit qu'on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve. La voix, c'est pareil. En fait, elle change tout le temps. Le volume de la voix, la texture et comment on se sent psychiquement, physiquement. Donc, notre voix, elle change en permanence. On n'a jamais deux jours la même voix. Et plutôt que de lutter contre ça, parce qu'au début, moi, quand je faisais du classique, on a envie un peu de mettre en boîte tout ça et on a peur de ça. Et se dire non, en fait, on fait avec la voix qu'on a aujourd'hui, l'état dans lequel on est, comment on se sent. Et pour les femmes, il y a aussi évidemment les hormones qui vont jouer un rôle. Et donc, ça, c'est aussi quelque chose de passionnant, le fait que ça se modifie en permanence. Et le corps de la personne qui chante, qui fait du son, c'est un corps laboratoire. On vient grailler, on vient chercher, on vient titiller des choses qui sont parfois mises en veilleuse. Et je ne sais pas si vous avez toutes et tous fait l'expérience, quand on chante, souvent on a la banane, la patate ou tous les fruits et légumes qu'on veut. Pourquoi ? Parce que justement, ça vient réveiller des choses. Ça, bon, après, ça génère aussi de l'ocytocine, de l'endorphine. On est complètement dopé, ben, ça vient mobiliser tout un ensemble de muscles et de combines qui doivent travailler en même temps et qui vont réveiller ce corps laboratoire. Donc ça, c'est aussi, je trouve, quelque chose de fascinant. Et puis, il y a un phoniatre qui disait, ça j'aime assez, c'est une forme de boutade, que en fait, la voix, c'est le seul instrument avant et à cordes. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est un transfert d'énergie du souffle en vibration. Alors, ce qui se passe, après, je vais vous montrer, plutôt que de tchatcher, ce sera plus... En fait, on a nos deux petites cordes vocales, donc qui sont placées ici, si j'ai une coupe transversale là, dans le larynx. Et puis, on en a deux, elles sont horizontales, parce que parfois, on a... Mais c'est dur hein, de se représenter ce que c'est que la voix, puisqu'on ne voit pas. Et en fait, les cordes vocales, c'est du ligament, du muscle qui est entouré de muqueuse. Muqueuse, on parlait de champignons tout à l'heure, c'est pour ça. Et puis, en fait, c'est cette muqueuse qui va entrer en vibration avec l'air expiré. Ça va générer des vibrations. Et donc, c'est ça qui va générer ce son. Et ensuite, c'est les caisses de résonance, ici, qui vont, en fait, sculpter la matière sonore, donner un timbre. C'est les moules, en fait, les résonateurs, qui vont donner un timbre particulier à la voix. Et du coup, je vais vous montrer, si j'arrive, avec le track. Ça sera plus parlant. Là, j'ai pris un diapason... Je triche, c'est un grand, en fait, il est en do. Ça veut dire qu'il vibre, en fait, ce, on appelle les hertz, c'est le nombre de cycles par seconde. Il va vibrer 260 fois par seconde. Et en fait, mes cordes vocales, je vais chanter un do, elles vont, en fait, se rapprocher 260 fois par seconde. Ça, c'est assez fou, parce que quand on a la voix fatiguée, si on va brailler dans une manif, ou on chante sans avoir chauffé, en fait, il faut imaginer ça. Quand on fait ça, ça chauffe. Et c'est exactement pareil où on peut, si on va courir, on n'est pas allé depuis longtemps, on a des courbatures, en fait. Parce qu'on a vu, il y a tout plein de muscles qui rentrent en jeu pour la voix. Et là, ce que je vais faire, je vais chanter un do et je vais reproduire mes cordes vocales. Elles vont avoir tout le temps la même longueur, la même épaisseur, la même élasticité. Par contre, je vais changer le moule, en fait. Je vais changer l'endroit où je place ma voix. Je peux changer les voyelles, je peux bouger la langue. Et puis, ça va modifier le timbre. Ça, c'est un son tout doux. Et puis, c'est rigolo, il a un petit vibrato parce que j'ai la trouille. Donc, évidemment, j'ai la pétoche, donc la voix, elle tremble. C'est pas grave, je fais avec. Et là, je vais faire un son qui est au contraire très nasal, placé ici, et où je chante exactement la même note. Hein. Donc, mes cordes vocales font le même boulot. Simplement, je vais changer la pression et puis changer la place dans les moules qui vont sculpter la matière. Après, je peux rajouter un nénénénéné avec la langue, des trucs. Là, je viens vraiment placer la voix ici et ça change. En fait, là, il y a beaucoup de pression dans les cordes vocales, mais en fait, les cordes vocales, elles, ont fait le même boulot. En fait, elles ont. Donc, ça, c'est aussi assez fascinant parce que quand on apprend un chant, ça veut dire qu'on va essayer toujours de reproduire à la fois cette même tension, ces mêmes choses dans le corps. Et en même temps, on a vu que le corps, il bouge en permanence. Donc, ça, c'est aussi très beau, cette mobilité. Et juste là, je vais vous lire, pour terminer ça, avant de passer juste après aux voix intérieures, un petit texte de Dieter Schnebel, qui est un compositeur allemand, qui est mort maintenant, mais qui a beaucoup étudié les processus de production du son. Et il parle de la corporéité de la voix, et je trouve très beau les termes, et l'animalité avec les termes qu'il emploie. Il dit « Une fois encore, le flux d'air peut être structuré organiquement dans la cavité buccale en fonction de la forme donnée à la langue, ce drôle de muscle qui est déjà presque un animal, tenant à la fois de l'escargot et du serpent. Et selon que les lèvres soient arrondies ou étirées, on donne naissance à des voyelles ou à des consonnes ou aux deux mêlées ou au processus sonore presque inimaginable de complexité qu'est le langage. Mais ce n'est pas tout. Là aussi, toutes sortes de choses aussi ensemble. Les os vibrent. La chair assourdit plutôt. Les os vibrent, que ce soit le crâne, l'os nasal ou même les dents. Cependant, ce sont surtout les cavités en nous qui permettent la résonance, la cage thoracique ou aussi les graves, ou les cavités de la tête où les aigus sont amplifiés. Ainsi naît le volume de la voix. Mais les sons vocaux ou instrumentaux, même ceux du quotidien, sont eux-mêmes déjà du vivant et ont leur propre sensualité. Souvent, on peut les ressentir dans sa chair. Nous percevons les graves aussi par le ventre, les aigus par les os de la tête, et nous en sentons certains par le plexus solaire. Par conséquent, la musique est un art corporel et matériel, un processus impliquant de multiples activités musculaires qui, à leur tour, sont diversement liées entre elles, et ce processus se déroule constamment au présent. En tant qu'art de l'activité musculaire accompagnée de sueur et de sécrétion, de contraction et d'extraction, la musique est peut-être le plus sensuel des arts avec une bonne dose d'obscénité. Et là, il parle des caisses de résonance. Et tout à l'heure, donc, j'ai amené une grille de four avec, pour faire. On peut aussi utiliser le diapason. Par exemple, si je voulais entendre le son à produire tout à l'heure, je peux le faire sonner ici. Là, il sonne très fortement dans ma tête. C'est ce qu'on appelle la conduction osseuse, en fait. C'est les nonos qui vibrent. Et puis, où le son, il passe ailleurs que par les oreilles. Et ça, c'est aussi quelque chose de... Justement, quand je parlais des vibrations, on est vraiment des corps vibratoires. Et c'est une façon aussi d'entrer en lien. Et puis, juste pour terminer sur ces sensations qu'on peut avoir, vous avez peut-être toutes fait l'expérience, tous et toutes, de cette voix, la première fois qu'on entend notre voix enregistrée. Et là, il y a une dissonance forte, en fait, entre notre propre perception. Parce que souvent, on se dit « Waouh, mais ce n'est pas ma voix, en fait ». Pourquoi ? Parce que, justement, il y a plein de trucs qui vibrent, des muscles, des os, et qui rendent, en fait, qui vont amplifier davantage les graves de la voix. Et c'est pour ça qu'il y a une dissonance entre notre propre perception, c'est-à-dire qu'on est nous seuls à percevoir la façon dont on perçoit notre voix, et les autres qui vont la percevoir d'une autre façon, souvent avec un peu plus d'aigu, justement, un peu plus d'harmonie qui seront dans l'aigu. Alors, je vais juste terminer avec quelque chose qui me tenait à cœur aussi, que sont les voix qu'on a dans la tête, les voix intérieures. Et c'est parti d'un bouquin, une chercheuse qui fait des recherches au CNRS sur nos voix dans la tête, qui s'appelle Hélène Leuvenbruck, et qui a fait beaucoup de recherches et qui a écrit, et je l'ai appris hier, un bouquin aussi que je trouve très beau pour les enfants, qui s'appelle Jeanne et le secret des petites voix dans la tête dès 4 ans, parce qu'elle s'est rendue compte que les enfants aussi se disaient « Mais oh, est-ce que je suis normale ? Parce que j'entends plein de voix dans ma tête, il se passe plein de choses avec les voix. Est-ce que... » Oui, c'est normal et c'est constitutif de notre identité. C'est comme ça aussi qu'on se construit une pensée, qu'on construit un monde, un imaginaire. Et elle a fait tout plein d'expérimentations, en fait, pour se dire, la voix qu'on entend si on se parle dans notre tête, si on lit un texte, est-ce qu'on a des intonations particulières ? Quelle est la couleur de la voix ? Est-ce qu'on vient aussi mobiliser le corps ? La respiration, dit-elle, se mobilise aussi différemment, même si on n'a pas énoncé, en fait, si on n'a pas mis en voix. Et du coup... Je voulais juste faire avec vous quelques... C'est tout court, hein, des petites expériences qui sont dans son livre et où vous n'aurez pas besoin de sonoriser, c'est ça qui est chouette. Même si vous avez le trac, on ne saura pas. En fait, la première, c'est celle-ci, je ne sais pas si vous arrivez à voir, c'est de lire cette phrase dans votre tête sans la sonoriser. Et ça, c'est intéressant, elle dit, parce que est-ce que vous avez fourché ? En tout cas, moi, je fourche à chaque fois, quoi, comme si je le faisais oralement. Et je ressens des choses qui se passent physiquement, en fait, alors que je n'ai absolument pas sonorisé. Donc, elle dit, on peut avoir une conscience, en fait, de ce qu'on lit ou de ce qu'on se dit dans notre tête. Et parfois, on a même des choses physiques aussi qui se passent dans le corps. La deuxième expérience, elle est relative à la lecture. Alors bon, la troisième phrase est vraiment très petite, mais...
C'était la première phrase.
Ou alors, je ne sais pas pouvoir... Les 16 chaises sèches et les chaises sèches.
Sèches. Et maintenant, la phrase qui circule...
La phrase, en fait, là, c'est sur le mystère des voix intérieures, mais avec différentes intonations. Et est-ce que, lorsqu'on lit, ça, typiquement, quand on lit un bouquin, ou si on lit des dialogues dans un bouquin, est-ce qu'on prend des voix différentes ? Quelles sont ces voix ? Comment nous parle-t-elle ? Et pour elle, c'est vraiment... Ce bouquin, pour moi, ça a été aussi... ça a été fondamental. Après, elle travaille aussi sur les accents, les rimes. Et là aussi, ben, on en parlait tout à l'heure, qu'on vienne du Valais, de la Chaux-de-Fonds ou de Genève, on va rimer différemment. Donc, elle dit, mais ça veut dire que notre voix intérieure, elle est poète aussi. On a des rythmes, on a des rimes, des accentuations, des intonations. Et elle parle de ces multiples voix qu'on a dans la tête et à quel point c'est intéressant d'y porter attention. Et puis, elle a une dernière expérience qui est marrante aussi avec le verlan. Et ça, c'est de se dire chaque ligne plusieurs fois dans vos têtes et puis d'observer si vous aurez une rythmique différente au fil de la lecture.
Alors, je peux juste voir s'il est l'envers, pourri, oui, d'accord. Vas-y, choper. Donc, le public fait
vous,
l'expérience
quand,
dans la tête.
Voilà, dans la tête, et quand, en tout cas pour ma part, moi, il y a des rythmes qui viennent s'installer, et elle aborde aussi la question de la mise en voix quand on est en solo. Et elle m'a aussi beaucoup décomplexée parce que je parle seule et je n'ai plus aucun souci à le faire, parce qu'elle dit que c'est une très belle façon soit de, justement d'être attentive à sa propre voix, de l'entendre sonner, de l'entendre vibrer, et aussi de, quand c'est un peu le pitchy dans sa tête, c'est aussi une façon de remettre un peu en ordre les idées et puis de clarifier certaines choses. Et j'aimerais terminer ce petit mot avec sa conclusion à elle de son bouquin que je trouve très beau à porter en plus ici à Malévo. Elle dit « On est tous différents, nos voix intérieures, nos expériences intérieures diffèrent. Il faut prendre conscience de soi pour mieux s'entendre soi-même et il faut prendre conscience de nos différences mentales pour arriver à s'entendre entre nous, tendre vers l'entente. » Voilà, merci.
Merci, bravo. Donc, on n'entend pas sa voix comme les autres l'entendent. Hein. Mais souvent, les gens n'aiment pas s'entendre.
Oui. Là-dedans, il y a plusieurs choses. Il y a justement déjà cette dissonance-là, parce qu'il y a une dissonance entre notre perception et la perception qu'ont les autres ou la voix enregistrée. Et puis, je pense qu'il y a une autre chose qui est culturelle, parce que quand j'ai donné des ateliers voix, pas mal à ce jour, il y a plein de gens qui me disent « je chante faux, je ne sais pas chanter, ma voix est moche », et ça, je trouve ça absolument terrible. Pourquoi ? Parce que dans un cadre donné où ils devaient chanter d'une certaine façon, ils n'entraient pas dans ce cadre-là, dans cette norme-là, dans cette voix normée-là. Alors que comme je disais, toute voix, absolument toute voix, a plein de choses, charrie tout plein de monde et l'imaginaire à porter, mais simplement, il faut ouvrir le cadre et en fait, les consignes et les pistes de décollage doivent être autres. Ça, c'est vraiment un problème culturel, je pense, très fort, dans la façon dont on apprend à vocaliser, à chanter, à porter sa voix.
J'ai une question, parce que le jour, je vous ai vu lire les onomatopées qu'on a dans les bandes dessinées, les brooms, les vrous, les splatch, les booms, les pans et tout ça. Et puis, quand vous lisez la bande dessinée qui porte la voix d'auteur, est-ce que vous donnez des voix aux auteurs? Parce que moi, la première fois que j'ai vu Tintin en dessin animé, j'étais tellement déçu parce que je n'aimais pas du tout les voix. Ça ne me correspondait absolument pas. Je ne supportais pas comment Tintin parlait, Haddock et consorts. Alors, est-ce que vous, quand vous lisez, est-ce que vous leur donnez des voix?
Oui, puis je pense que tout le monde le fait. J'ai l'impression... Ouais, en fait, on en parlera après. Mais j'ai l'impression que oui, tout le monde le fait. Après, de la sonoriser les onomatopées, peut-être pas, mais par exemple, chez Franquin, là, Gaston Lagaffe, c'est hyper sonore, ça pétarade. D'ailleurs, il fait sortir ça pétarade en dehors des bulles, ça c'est trop bien, parce qu'il fait péter le cadre, justement. Mais j'ai l'impression que tout le monde, justement, puis qu'après, tout d'un coup, il y a soit un film, une réalisation, et on est très étonné parce qu'on se dit, ah, mais ça ne correspond pas à la voix que j'avais en tête et que j'avais imaginée. Mais j'ai l'impression quand on lit, que ce soit bande dessinée ou autre, après peut-être, comme disait Hélène Lovenbruck aussi, il y a des gens qui sont plus visuels, donc qui ne vont pas forcément sonoriser avec des textes, de la parole, mais avec des images, ou si on essaie de mémoriser des mots, on va passer par l'image, les sensations, les couleurs. Mais j'ai l'impression que de prêter des voix, effectivement, on le fait peut-être. Ouais.
Alors, merci. On va garder du temps à la fin pour poser des questions, pour rester dans cet élan. Donc, Vincent Barras, tout à l'heure, il ne savait pas encore s'il allait faire une conférence, un poème, une performance. Est-ce que tu en sais plus maintenant ?
Allez, je me décide. Voilà. Je vais me mettre là. Je vais vous faire un poème sonore, puisqu'on en a parlé tout à l'heure, qui s'appelle Rotor. Et qui contient, je crois, un peu tout ce qu'a dit Céline en termes de voix, de souffle, de cordes vocales, de tout ce que vous voulez, à ma façon. Rot, rto, ort, ot, tor, tra, ort, autre, orot, orto, otor, otro, roto, rot, rto, rto, rot, roto, tor, toro, tor, toro, tro, tro, raor, raro, roar, rora, rao, roa,
aorte, aotre, arote, arto, ator, atra, oarte, oatre, orate, orta, otar, otra, raote, rato, roate, rata, rtao, rtoa, taor, taro, toar, tora, trao, troa, rotor, rotro, rotre, rort, rtor, rtoro, rtro, rtro, rort, rotre, rotor, rotro, roto, rot, rto, rto, rot, roto, ort, orot, orta, otra, rot, rot, rota, rtao, tor, taro, tor, tro, raor, raro, rtao, roar, roha, roa, tora, taro, tara, tata, roarat, torio, oioio, oirot, taraor, tauto, tauta, tvartas, tvarti, rastas, rent, schlapta, spastai, spend, nasta, nesch, schlapta, na, toine, oinos, rom, mor, r, ra, por, upnes, oknos, hostil, bain, der, bach, bash, gash, lar, ver, laine, laisse, sans, angle, angle, ongle, grelot, oh, lol, ondé, hollandais, oh, dev, davi, viol, colon, lombe, de long, os, l'eau, l'auto, auto, tonné, nebel, nobe, bless, led, less, smoke, manque, song, moque, que, moqueur, heur, oh, dru, dong, du, angor, au gore, hormone, mono, hormone, noto, automne, tous, ous, Youssouf, oh fuck, oh cam, que, quand, quand, et bien, blé, beden, len, em, mec, oh quand, que, quand, son, et quand, hanche, au nez, leur, gomme, je masse, et, mais se soulve, vie, viande, Inde, et joue, ours, laisse, rend, sans souci, sien, et, hijab, jap, hop, et pleure, l'or, or, horreur, heur, et Hegemon, aimant, Emma, en vélo, lave, au vent, mot, mauve, morve, au vert, orvet, au vert, vecchi, équipement, app, en port, or, orte, peu, porte, te, deum, et, de, sad, adèle, au deux, lapin, lapa, app, pareil, pareil, rail, al, alla, alla, affreux, e, f, morte, alla, feuille, morte, tre, la, l'étau, laion, flauma, strauma, slap, vrata, vartal, vartai, vesti, pato, saeta, sae, gui, le g, nous, le que, le g, gnac, g, g, gnac, la fi, la fine, finial, g, gn, g, gn, gnion, que cocotte, que colosse, fausto, que copie, le, que, la corde courbe, gnot, rata, gnata, gnade, gnedig, gnadi, gnadenlos, gnaden, gnädige, gnädigen, gnädigen, gnadenthron, gnädigste, gnadenlosen, gnocchi, gnaden, gnadenwerk, gnädiges, gnadengeschenk, gnagnosis, gnante, gnü, schock, gnschmucki, gnanakt, gnadenjahr, gnueck, raus, schill, la gnac, renature, desch, ose, vie, rechigne et dupe, à ce qui est dupe, à ce qui est art, au base d'algues roses, dot, ch, à que si on abarrasse, un sans semer, sage a été archi, vin sans nid, sel a étant huit sur nos ais, change de lait, t'es hâtera vers quelques cul, messe, sage que tu avais en, veux voyer sur ma boîte, bite peut perdre son aile, homme amance tous, la ouenne pertant, pervoit la dentelle prise, nous trou, vend le mal effet, de dead, de c'est, T'es tout que je rêve, les évite, et oui, je jette de deux andes le silence, gère et prends de ré, compte, rattirant, ah, que t'avec toi, que canse et la messe à able rap possible, peut passe le danse et ta fait. Ah, j'ai meur et quand m'émeut, te dis Raquel, pointu m'a fait du mal. Un cinq à ma femme a mié, à quel point je trouve sa mine à bleu. Mère, si d'avoir Laura, Alité, Paul, Novak, Novag, ans avec tes notes, recouple de depuis des ânes invisibles, ment pour tenter de l'âne né en tire fine, allemande tu as tes aies, tu dis hante, oui pour retirer un coup sans con, c'est quand semé pâme à femme, nous sommes mouettes, ils sont neuf mi-unis, jusque là est ta honneur, lis que tu y nais, quelque chose neuf de près, si eux peut tout à vous, loin rentrant tenir une heureux, lascon qui fait du mal et qui n'a pas dissunat, pas, en cours appris ça, ave, que ton âge respecte ta bleu, père vers mal, à de se suider, goûter de lire tes dix arts et verbeuse sur mon aïe, pas alors même que nourrisse à lise, yon se vouaillage, importe ample pour tout flette qu'être œuvre aisante, eût pouverte retenir tant, et rend les faits, c'est comme cette thune vie, et à faire élire, tu as ces deux a. Pour Thérèse, Oné, soave Virginie, né lui et cœur, et a anéanti, je et te demande donc de rester à dix temps ce reste, et à l'aide, tiens, voilà, et mon arrive pas à lâche, hanche, hush, vie de mon ressentiment, et donc je m'arrêteur, et là, et est-ce père en eux plus à vous art à faire avec toi d'or haine avant nick voilà vaux chez arche épais effet les si a et fa et se par ténère à sauce yé bur carte par ténère et ça envoyait de mon nid faune l'art l'or râle alité l'art bâche gâche l'arniaque la gnagna la finale la fine gagna gna dipna gna di elle gagne elle di blgl wugndrna gna elle gagne la gne de la gnole du prognate, du prognate sur le nion de la gnaque, 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 gnoule sur le cogné, sur le prognate orque, orchidée cannibale, sur dr, sur ra, sur le, sur la gnose du prognate, cogne en flasque, gnaque, gnaque, gna, l'ar, gnaque, claque, gna, gnaque, adr, la gnogodiche, gnocchi, godmiche, le nion. Le gnome, gnodis, le croc, le magnon, et pas le crobard, gnognio, gnognodis de dé, de galble, gwo, ganble, gwo, ne dédé, ne goda, ne dédaignez pas vos ignobles, que godasses, ne dédaignez vos gras, vos cognards, vos, si vos godards, ne gogo, vos sinables, minables, gnome et gnôle, d'art et de dis, aign, et de i, head, ig, ig, ignoble, fi, fignol, fi, gne, gne, de, dé, vos gne, ne, dé, ne, de, sé, ne, ligne, ne, se, dédaignez pas, vos gnac, gnodis, vos di, vos rôtes, vos gnos de dédaigne, les bornes, ne, de, dé, ne dédaignez pas vos bornes, pas vos bornes, pas vos rats, et a, et aclite et raclette, ne de et beugnez, ne de dé, ne dédaignez pas vos borgnes, vos dignitaires, vos bornes, chères dignes, vos, ne dédaignez pas vos, ne dignes, saignez vos charognes, ni de ririez et les frissons niqués, ne si gna gna vos rats, vos rôtes, que cordes et fendant, corps de Desenc, Kyrie, Eleison, vos répugnantes résignations de Gn, vos Ivo, Pogo, Yvonne, Ivrogne, niquez pas Deleuze, ô phage, niquez Deleuze, ô phage, niquez vos arniaques, vos ducasses, vos dupes, à ce que yaient vos chais, vos charogneries, stagnation de borgne, indi, indigné, les ingé, ingé, ingénieur, agronome, ignoble, bl, blg, gnag, grenier, cet a, cet avant-goût, d'écho, de co, de cognac, de gn, de pogne, de coin, gnédigé, frau, gnose, prognose, pronostic, tic, tic, et t, ta raclette, tic, tic, épactic, épatoc, que, cognac, gnarc, armani, armagnac, gnognotte, pogne, porc, rogne, roasted pork, loin, the sharp, cool, pure hair of heaven, pieux yeux, charpé, coulant, puré, oi, fève, ignoble, ignis, ignace, figni, pré, smitch, ré, répune, de di, uber, diagnostiqué, de drame, grignoté, uber, vos magnes, vos signes, vos ovnis, vos attraits, vos vers, vos citères, terre, ré, gnose, corps, chorégraphique, toré, fifi, et de vos dégouts, vos dégâts, pagne, pas, en niaque, hard, cogne, arnaque. Cognas, cognas, la nose, gnose, glose, l'agnol, magnola, ya, ja, jama, jamais, et niel, nier, haner, nag, il est né, niais de la nièce, pas la nièce, l'Espagne, l'herpargne, la nièce, de la chez, la dèche, l'ardèche, de la mignonne, chère mignonne, passe la passion, nia, nia, da, ingénier, ingé, ingénier, ara, âtre, et cognition de co-co-corps, kystique, christique, il est niais, il est naze, déniaise, rare, l'ingénu, l'ingénieur, à grenoble, ok, et corps, vos, vos hommes, gignon, à l'oignon, à la filet, arne, de la magnificat, ist magnit, de magn, corpus, meus, ic, est, hoc, je gêne, je, le nœud, je sens, je saigne, je te stagne, je stagne, be, banque, route, trop, trop, très, et ign, signe, in, ben, fer, schémar, et gn, ar, la, niac, et signe, gni, gno, gnas, agna, gno, gnat, dar, fragnance, prognat, je si, je sta, je stagne, en, agne, prognat, gnose, à prose, rose, mon ignoble, prostate, ma pro, ma, ma jocasse, ma gras, ma pro, la pugne, mon pré, mon pudias, prépuce, son signe, mon anus, mon agne, agneau, agnus, anus, agnostique, je te stagne, porc, salami, suisse, melt, bac, lard, baston, bidon, le petit bidon, large, salt, teigne, roasted pork, loin, loin, bon, j'ai borne, je te... Je t'aime, déli, âme, niam, je longe, borgne, rgn, rn, 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 je me déteigne, magnifique, rossignol, je fie, je fignole, fignole, magnificane, nightingale, pasta, pizza, fendant, tu coules, tu cors, pendant, tu signes, tu mignes, chair, mignes, tu manes, tu me gagnes, je t'accagne, je t'accompagne, tu m'alignes, elle t'appleigne, elle m'argougne, elle m'assigne, vous m'auvergnez, il la baigne, je te barguigne, tu me besognes, elle se beugne, il nous bougne, vous vous bugnez, tu me cagnes, elle me castagne, et je vous charogne, nous nous châtaignons, tu te chignes, elle te chougne, tu me consignes, je vous contresigne, elle me consigne, on se daigne, on te déconsigne, je te dépeigne, il la désaligne, nous nous désignons, il t'éborgne, elle t'écharogne, tu m'échignes, vous m'égratignez, tu t'éloignes, je m'embesogne, vous m'embugnez, je t'empoigne, elle m'encogne, tu nous encognes, il m'engaigne, tu m'enlignes, vous t'enseignez, épargne-moi, elle lesbigne, et toi tu t'étonnes, on me forligne, gagnez, elle nous graffigne, tu me grignes, on me grogne, qui me guigne, nous mognons, je l'imprègne, elle t'indigne, je m'interligne, il s'ivrogne, tu te lignes, je me lorgne, on me magne, tu te signes, je me pagne, elle se pogne, nous nous pougnons, tu te provignes, je les raccompagne, il la réaligne, elle se rebaigne, on la recogne, je la règne, on te rencogne, elle se renseigne, je te renfrogne, je te renseigne, je te répugne, il la résigne, on nous rogne, nous te saccagnons, il me saigne. En mouche en poigne, il la signe, je me soigne, elle les souligne. Tu me soulignes, je te stagne, nous nous témoignons, je t'éreigne, te gasse, je tague, je t'agace, je dis, dit, tri, rit, tête, chet, ch'ter, mine, ra, ré, titre, didre, tit, terre, tor, dit, diet, dit, dit, de, rote, taude, dot.
Merci Vincent. Je comprends mieux pourquoi tu disais que c'est une espèce d'illustration. Moi, j'ai eu l'impression d'avoir une démonstration de la naissance de la langue. On commence par des sons. On voit que ça hésite entre. On ne sait pas où ça va aller. Tout à coup, on entend. On saisit les premiers mots. On saisit Allah, Gnad. On dira c'est de l'allemand. Ensuite, on revient. Copie, courbe. C'est de l'anglais. On saisit air, even. À ce moment. Cro-Magnon, comme si c'était vraiment l'essence de ce poème, l'origine, c'était comment on est arrivé de Cro-Magnon jusqu'au Fendant, à la raclette de Longeborn et à ce magnifique rossignol. Est-ce que c'est un peu ça ce que vous avez voulu mettre dans ce poème ?
Bon, c'est un poème qui s'appelle Rotor, dont j'ai fait une première version qui était une pièce installative, il faut citer ses crédits, pour la Biennale Son que vous avez citée tout à l'heure à Sion, qui c'était une pièce, une installation sonore qui se déroulait dans une ancienne usine électrique au bas d'une conduite forcée. Au bout desquels, normalement, se trouvent des rotors, qui sont des systèmes pour transformer une énergie en une autre, une énergie hydraulique en énergie électrique. Et le thème du rotor, qui par ailleurs fait allusion à Dieter Roth, qui est un artiste avec qui j'ai certaines affinités, me séduisait. Et ce que j'ai voulu faire, effectivement, c'est transformer, comme je pense aussi beaucoup aux laves torrentielles qui découle de tous les côtés désormais dans notre Beauvalais et dans le reste des Alpes et puis qui emporte des villages et dans lesquels on charrie des tas de mots, des tas de débris et c'était à la fois quelque chose qui a à voir avec la naissance du langage, si vous voulez, mais aussi avec la fin d'un monde hein, où tout est plus que débris et c'est quelque chose qui oscille entre un optimisme mesuré, comme celui qui voudrait voir là-dedans un langage qui se met en scène ou qui commence à émerger, et plutôt quelque chose, et à l'inverse, quelque chose où c'est un petit peu apocalyptique et c'est un peu la fin du monde et la fin des mots.
Qu'est-ce que vous en avez pensé, Céline ? Parce que vous parlez justement de tous ces mots qu'on peut faire avec sa bouche et tout, et puis cette illustration de la conférence de tout à l'heure.
Bah, ce que j'adore voir, je me suis mise aussi sur le côté, on parlait de la corporéité, la matérialité aussi du langage, et puis de qu'est-ce qui vient, cette langue en forme de serpent, toutes les en fait, contractions, extractions, et à la fois d'être à la fois dans le son et dans le sens, et cette pâte sonore, en fait, cette matière sonore, et parfois qui fait sens, et qui peut faire sens de mille façons différentes, et toute cette corporéité, cette matérialité du son, en fait, et où on voit, là, en plus, physiquement, ce qui se passe corporellement, quoi. Donc il y a plein de strates, je trouve, qui sont assez jubilatoires.
Oui, je trouve. Enfin, merci pour ces commentaires. Je ne sais pas s'ils sont élogieux, mais en tout cas, ils m'inspirent. Moi, j'ai tendance à concevoir la voix comme ce qui est le support de la parole qui nous constitue comme humains et comme interhumains, c'est-à-dire comme pour l'échange. Et puis, on est constamment, y compris dans la vie courante, pas seulement quand quelqu'un fait une performance un peu bizarroïde devant les autres dans un cadre spécifique, mais dans la vie de tous les jours, on oscille constamment dans mon rapport à l'autre, comme sur une crête, où d'un côté il y a le sens et de l'autre côté il y a le son. Et des fois c'est plus le son qui l'emporte. Et si je converse avec vous, ça sera peut-être plus, je retiendrai plus, ah, elle a une voix comme ceci, ou elle avait l'air de bonne humeur, de mauvaise humeur, ou du côté du son, quoi, elle a une voix grave qui me plaît pas, etc. Et du sens,
elle a pointé sur un truc très important, sur tel concept, cette personne-là. Donc, et il me semble que c'est notre vie quotidienne, notre usage du langage, il oscille constamment. Alors, je suis un peu saussurien, là, je parle sous l'autorité des linguistes qui se trouvent dans la salle, mais en fait, on n'est jamais d'un côté ou de l'autre. Et quand on croit qu'on dit des choses très importantes, attention, je vais vous dire un message super important. Combien de fois j'ai été surpris de comprendre que l'autre n'avait strictement rien entendu de ce que je voulais qu'il entende ou qu'elle entende, mais au contraire, elle avait entendu ma voix, mon trac ou ma colère, etc. Et donc, des choses qui... plutôt du côté du son. Et je trouve que c'est quand même très important de se rappeler constamment qu'on est sur cette crête-là. Je trouve bien cette image, puisqu'on parlait de montagne. On est d'un côté ou de l'autre. Il faut essayer de ne pas tomber dans un côté ni dans l'autre, de rester plus ou moins sur la crête.
Est-ce qu'il y a une question dans le public? On peut faire ce que le micro. Il y a quelqu'un qui veut faire une remarque, une question? Sinon, est-ce qu'il y a? Il y a un autre micro qui pourrait circuler. Voilà. Garde le micro. Prends le micro qui est là, s'il
Allô
te plaît, Céline.
Vas-y. Bonjour Vincent, bonjour Céline. J'ai une question pour Vincent, parce que Céline a parlé en commençant d'une dimension politique aussi de la voix, si j'ai bien compris. En fait, il y a des voix qui sont plus entendues que d'autres. En t'écoutant, Vincent, j'ai eu l'impression un peu de ni d'une voix qui s'est créée, ni d'une voix qui s'est détruite, qui disparaît, mais plutôt dans une espèce de mélange de voix différentes. Et moi, en fait, étant allophone, disons, moi j'ai l'impression souvent que la voix aussi, vraiment, il y a toute la configuration de mon visage, de ma bouche, qui change en fonction de la langue que je parle. Et en écoutant Vincent, j'ai un peu eu cette impression-là, j'ai eu des traces de mots, des sons, peut-être de plusieurs langues, de langues différentes. Et je me demandais, c'est dans ton travail aussi, cette dimension-là plus... politique peut-être, des voix qui sont écoutées, des voix qui sont en train de se faire et qui sont moins écoutées. Je trouve que les voix, par exemple migrantes, ont plus du mal à se faire entendre aussi, parce que ce sont des voix qui ne parlent pas, par exemple, le langage de la bureaucratie, le langage de la... S'il y a un peu cette dimension-là ou pas. Merci.
C'était pour toi, c'était pour toi. Elle a dit que la voix était politique, et alors elle demande de confirmer.
Est-ce que ma voix est politique? Moi, je pense que tout geste est politique, qu'il le soit, qu'il soit consciemment ou non politique, il l'est. Et tout geste artistique en particulier. Et moi, je revendique une conscience politique. Enfin, j'essaie en tout cas d'avoir une conscience politique de ce que je fais. Et il est sûr qu'avec un thème comme la parole, qui a droit à la parole, qui ne l'a pas, quand la parole s'engloutit, alors il y a des villages qui sont engloutis par les montagnes qui descendent, mais il y a aussi des gens qui sont engloutis dans la mer parce qu'ils traversent, ils essaient de traverser pour aller vers une ère des zones soi-disant de liberté, et leur voix est littéralement engloutie dans les flots. C'est sûr que notamment ce poème, je dirais que cette dimension, elle vient presque après coup. J'ai pas au départ l'intention de dire attention, là je vais mettre du politique à fond, mais c'est sûr que de temps en temps je me fais un petit plaisir en glissant une petite allusion ou autre qui est saisie ou pas, d'ailleurs peu importe, mais globalement c'est plutôt après coup que c'est le processus formel, je crois, qui pousse peut-être une interprétation possible, et que je vous remercie de mettre en évidence dans ce poème en particulier de Rotor. Le désordre des voix, aujourd'hui, bon, avec les voix, je pense qu'on est parti pour
Vous avez
des années de réflexion.
Est-ce que vous avez essayé de le faire lire par des personnes allophones en allemand ou en anglais ou en italien? Qu'est-ce que ça donnerait, ce poème?
La question de l'accent, on a évoqué tout à l'heure la question de l'accent. Je pense que ça donnerait quelque chose de différemment chaotique, et ce serait sûrement très intéressant. Bon, il faut que la personne... Alors, c'est un poème qui est en cours de... qui est en process, comme on dit, j'emploie l'anglais, dans lequel j'aimerais l'augmenter pour qu'il dure 2 ou 3 heures ou une nuit entière, je ne sais pas, enfin, très longtemps, comme un flow qui n'en finit pas, dans lequel il y aurait aussi des fragments de langue. Alors moi, j'ai accès à un certain nombre de langues, je commence à y mettre d'autres langues, mais je serais très heureux que d'autres gens s'en emparent. Et leur accent, leur voix venue d'ailleurs, du sud, du nord, de l'ouest ou de l'est,
D'en faire un cœur, d'en faire un cœur en quelque sorte.
Oui, alors là, c'est une deuxième étape, pourquoi pas.
Parce que pour ceux qui nous écoutent pour la première fois et qui rencontrent Vincent Barras, aime des performances très longues. Cet été, il a parlé pendant 6 heures non-stop du corps, jusqu'à épuiser tout ce qu'on peut dire sur le corps, et jusqu'à ce que le corps lui-même s'épuise. J'ai assisté à la fin de cette conférence où on avait l'impression, comme un iPhone ou un Nike, qui a plus de batterie. Tout à coup, boum, la conférence s'est arrêtée par manque de jus, par panne d'essence. C'était un peu ça. Vous êtes allé jusqu'au bout de ce qu'un 6 heures de conférence sans notes sur le corps. C'était ça.
C'était ça, oui, oui. Bon, oui, ça, cette idée de l'épuisement aussi, alors l'épuisement physique du corps, et puis qu'on retrouve un peu ici un épuisement comme s'il y avait la pulsion d'épuiser un lexique. Il faut tout dire le plus vite possible ou avec le flow le plus. Oui, comme une sorte d'urgence à tout dire, quoi. Et dans les conférences très longues qui sont des performances que je fais de temps en temps, effectivement, il y a cette idée-là où. Le corps, ben, on l'a entendu dans la première conférence de Céline, le corps, il est central dans la voix, dans la parole. C'est le corps qui parle.
Voilà, on arrive gentiment au terme de cette heure d'émission. Céline, est-ce que vous voudrez nous faire entendre une dernière fois votre voix?
Oui, pour...
Voilà.
Ben, oui, pour ce que je peux dire, c'est que peut-être là, on est intimidé par les micros, émissions de radio, tout ça, mais ce qui serait chouette, c'est d'échanger, voire d'essayer 2-3 choses après, pour entendre justement ces singularités de voix, multiplicité de voix et de corps. Ça serait vraiment intéressant de mener quelques expériences vocales et chorales et collectives, hein, pour entendre d'autres voix que les nôtres.
Alors merci Céline Henny, merci Vincent Barras, merci à Julien Morin qui est à la régie. On pourra réécouter cette émission à nouveau. Nous vous donnons rendez-vous le 15 mai 2027 pour la 17e fête de Sainte-Dipna. Et pour patienter d'ici là, vous pouvez vous brancher tous les jeudis sur Pavillon Nomade, la radio qui vous balade. Et là, tout de suite, on va pouvoir se lever, chanter, danser, tester les instruments. Merci de votre écoute. Le direct.